BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Comme chaque jour, on continue à vous accompagner, deux heures durant. C'est la deuxième heure qui s'ouvre avec toute l'actualité grâce à Faiza Younsi.
BFM Business, l'info éco.
Bonjour à tous. À la une, ces scènes de chaos ce matin devant la salle Pleyel à Paris où se déroule en ce moment même l'Assemblée Générale du groupe Total Énergie. Des dizaines de manifestants écologistes se sont installés aux abords de la salle pour tenter de bloquer la réunion. Ils ont été délogés par la police qui a provoqué des affrontements. À l'intérieur de la salle, des parois ont dû être installées pour protéger les intervenants. Et les actionnaires et journalistes n'ont pas le droit d'utiliser leur téléphone portable, des mesures sur lesquelles le PDG du groupe Pouyanné est revenu en début de séance. On l'écoute.
Vous l'avez constaté, et nous le regrettons, nous avons dû prendre des mesures un peu exceptionnelles, tant l'appel aux forces de l'ordre que d'un contrôle strict d'accès à cette Assemblée. Mais vous le savez également, un certain nombre d'organisations ont annoncé vouloir perturber l'Assemblée. Et nous avons donc pris des mesures pour que celle puisse se dérouler dans des meilleures conditions possibles. Bien évidemment, je regrette que cette rencontre ne puisse pas se passer dans un état comme elle devrait l'être, je dirais, de dialogue. Et j'espère en tout cas que le dialogue aura lieu, mais qu'on doit justement prendre des mesures un peu exceptionnelles.
Total Énergie n'est pas le seul à être dans le collimateur des ONG environnementales. Ces actions coup de poing se sont multipliées ces derniers mois, également à l'étranger, notamment lors de l'Assemblée Générale de Shell. Et pour la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, le cœur de métier des groupes pétroliers est de toute façon condamné. L'autre grand titre de l'actualité, c'est Intermarché qui signe un accord avec Casino. Les mousquetaires vont racheter 180 magasins de l'enseigne. Ils pèsent plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Le partenariat sur les achats est également élargi et prolongée. Du côté de la dette, Casino a entamé comme prévu la procédure de conciliation qui va durer 4 mois. Le groupe va tenter de négocier avec ses créanciers pour alléger ce fardeau de 6 milliards d'euros. Victoire judiciaire pour Atos aux États-Unis. La Cour d'appel a annulé une décision de première instance. Elle prévoyait le versement de 570 millions de dollars de dommages et intérêts à l'entreprise Trizetto. Elle accusait la filiale américaine d'Atos de détournement de secrets commerciaux et de violation de droits d'auteur. Il n'y aura pas de défaut de paiement. C'est ce qu'assure Joe Biden, le président américain, a confirmé que les discussions sur le relèvement du plafond de la dette avec l'opposition républicaine avaient été productives, mais on est maintenant à moins d'une semaine d'un possible shutdown. Toujours aux États-Unis, Neuralink a obtenu le feu vert des autorités sanitaires pour tester ses implants cérébraux sur des humains. La start-up d'Elon Musk va lancer ses essais cliniques sur des personnes paralysées ou qui souffrent de maladies neurologiques. Mais l'homme d'affaires veut aller plus loin. Il souhaite doper les capacités de l'homme à plus long terme grâce à ses puces. Et on termine avec CMA-CGM qui se renforce dans les médias. L'armateur dirigé par Rodolphe Saadé va racheter le journal La Tribune. Le groupe a déjà mis la main sur la Provence il y a quelques mois et est déjà actionnaire du groupe M6.
Merci beaucoup Faiza Younsi. Chaque heure pour suivre cette actualité économique, tout de suite direction les marchés actions.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et c'est Mickaël Jacobi qui nous accueille chez Oddo BHF. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Merci d'être au rendez-vous. Que dire de cette séance qui semble quand même un peu hésitante? Après des débuts dans le vert, on est venu jouer au yo-yo autour de la clôture d'hier soir.
Oui, tout à fait. Alors effectivement, on est plutôt à l'équilibre autour des 7230 points. On est quand même, pour voir le verre à moitié plein, un peu moins en prise de bénéfices que les 2-3 derniers jours. On est effectivement attentiste avant d'avoir les chiffres de l'inflation aux États-Unis qui pourraient effectivement nous donner un tout petit peu plus de visibilité sur une éventuelle remontée des taux ou pas. Et donc, restons bien connectés pour savoir le fameux de l'histoire et surtout si le marché sera plutôt orienté à prendre à nouveau des bénéfices ou plutôt acheter.
Quelques dossiers quand même à regarder. D'abord la COFACE.
Oui, alors effectivement, une très belle publication de la part de Coface. On a un joli début d'année, un ratio combiné qui est meilleur qu'attendu, croissance de revenus qui reste soutenue et tout ça montre que l'appétit des investisseurs revient clairement d'actualité sur le dossier qui performe. C'est un des plus gros performeurs autour de plus 9% aujourd'hui. Donc gros appétit des investisseurs face à une claire surperformance opérationnelle de Coface.
Et puis Atos.
Eh bien, Atos, comme le disait votre collègue, on a une annonce de la part d'une cour d'appel aux États-Unis qui a annulé une décision de première instance jugeant Syntel, et donc c'est favorable pour Atos sur 570 millions de dommages et intérêts à verser à Trizetto, qui aurait été donc infirmé par la cour d'appel, et donc c'est favorable à Atos qui aujourd'hui performe autour de plus 5%. Alors, la juridiction n'est pas finale. Hein. On a encore pas mal de jugements à attendre concernant ce cas de Atos. En revanche, c'est une très bonne nouvelle, en tout cas de parcours.
Merci beaucoup, Michael Jacobi, donc depuis Odo BHF ce matin, pour lire cette tendance assez indécise, plus 0,03, 7231 points pour le CAC.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Regard croisé qui accueille ce matin Emmanuel Salle. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Cédric.
Pour Financière de la Cité, Guillaume Gérineau. Bonjour Guillaume.
Bonjour Cédric.
Pour Carlton Sélection. C'est l'heure de la pause en bourse, Emmanuel?
On a fait quand même un parcours assez remarquable hein, depuis le début de l'année 2023. Je crois que le marché s'est fait un peu peur, avec notamment cette affaire de plafond de la dette aux États-Unis.
Bon, on va y revenir,
mais je pense que c'est un théâtre, ça fait partie du théâtre un peu des marchés financiers. Maintenant, il y a toujours cette problématique de taux d'intérêt, avec des taux d'intérêt qui remontent, donc des problématiques compliquées. C'est-à-dire lorsqu'on a des actions, on attend du rendement, et lorsque les obligations présentent un rendement attractif, la question se pose de l'arbitrage, et à côté de ça, on a quand même cette affaire d'intelligence artificielle qui tire à la hausse de façon absolument spectaculaire certains titres. Vous avez vu Nvidia aux États-Unis, on va peut-être en parler, ce qui fait que la hausse se concentre sur un tout petit nombre de titres, alors que les autres sont impactés par des facteurs macroéconomiques un peu plus délicats. Donc, pas mal d'incertitudes quand même. Oui.
L'heure de la pause ou c'est le début de la chute ou... enfin, comment alors, vous voyez les choses?
Ça dépend pour qui. L'heure de la pause pour les marchés européens, oui. On pense que les marchés européens ont atteint un petit peu leur potentiel, surtout à court terme. Sur les marchés américains, c'est différent. C'est beaucoup plus hétérogène. On voit que la value ne performe pas depuis le début de l'année. Ça ne performe pas du tout. La tech, en revanche, ça performe très bien. Et notamment sur deux thématiques, l'intelligence artificielle et la thématique de baisse de taux qui devrait arriver début d'année prochaine. Donc, on a un marché plus hétérogène aux États-Unis, avec plus de mouvements, des méga caps qui tirent le marché, l'intelligence artificielle et la tech qui tirent le marché aussi. Et en Europe, c'est vrai qu'il y a moins de volume. On sent qu'on atteint un petit peu un plafond. On est toujours dans un range de 2%. Bon, la volatilité a un petit peu remonté ces derniers jours et nous, on en a profité notamment sur le luxe. Mais c'est vrai qu'en Europe, on sent que c'est un petit peu le début de la fin de la hausse.
Bon, voilà donc pour la prise de température quasi instantanée du marché. Après, c'est vrai qu'il y a ces grandes questions, et d'abord celle du plafond de la dette, surtout que là on aborde aux États-Unis un long week-end, puisqu'on rappelle que les places sont fermées lundi, hein. Et du coup, on s'interroge, parce qu'a priori, il reste en caisse quelques dizaines de milliards de dollars pour boucler...
Alors je pense que de ce point de vue, enfin, mon analyse, c'est qu'il faut plutôt être rassurant sur ce sujet-là. D'abord, on a déjà eu...
Oui, mais on a déjà souvent, on se rappelle, ces parcs nationaux fermés, pas de statut de la liberté pour les touristes à New York, etc. On a déjà vécu tout ça, mais là, on a quand même l'impression... qu'il y a un peu plus de tension que les fois précédentes.
Très sincèrement, j'ai le sentiment qu'il y a un peu moins de tension. Ah, néanmoins qu'en 2011, au temps d'Obama. J'ai vu ce matin que dans le Wall Street Journal, on va vraisemblablement quand même trouver un accord entre les républicains, et les démocrates. Ça serait vraiment se tirer une balle dans le pied. Très sincèrement, j'arrive pas à être inquiet.
Donc, pas d'inquiétude
sur le sujet, tout simplement parce qu'un État n'est pas un ménage. Un État n'est pas une entreprise. Je veux dire, au pire, vous savez, ils ont la possibilité de forger une pièce d'un trillion de dollars qui permet de régler le problème. Donc, l'argent n'a qu'une valeur nominale. Et si de toute façon on n'arrive pas à se mettre d'accord, bah effectivement, on aura un lockdown de quelques semaines, comme c'est déjà arrivé. Donc, avec les salaires d'un certain nombre de fonctionnaires fédéraux qui ne seront pas payés, on n'aura pas de défaut au sens technique sur la
dette. Parce que Nicolas Dose nous rappelait tout à l'heure qu'elle n'a pas dit qu'elle ne pouvait pas payer, elle a dit qu'elle ne voudrait pas payer.
Oui, absolument, tout à fait, c'est complètement différent. Et de toute façon, vous pouvez toujours payer, un État fait ce qu'il veut. Donc il n'y a pas de difficulté en fait technique, c'est un sujet essentiellement politique. Et d'un point de vue financier, je pense que c'est même plutôt l'occasion de prendre des positions acheteuses, des positions longues sur la partie peut-être la plus courte de la dette américaine afin de bénéficier d'un retour à la normale. Donc je ne parle pas de position à 30 ans, mais je pense que se positionner sur la dette américaine courte dans ces périodes d'incertitude est plutôt un bon choix. Donc non, pas trop d'inquiétude sur ce sujet-là. Je crois que ça fait partie vraiment du théâtre des marchés qui aiment à se faire peur.
Surtout que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué, donc
voilà.
Ça permet de changer d'air. Inquiet ou pas non plus inquiet chez Carlton ?
Alors nous, chez Carlton, depuis le début de cette histoire, on n'est pas du tout inquiet. On surveille de très près ce qui se passe justement sur le sujet du plafond de la dette aux États-Unis, mais ça n'impacte pas du tout nos allocations. Donc là, on voyait les CDS, donc en fait la couverture contre le défaut des États-Unis à un an qui ont atteint un sommet historique, ça fait une probabilité de défaut à un an de 3% avec des CDS à 180 BP. Ça nous paraît complètement irréel. On pense que c'est, comme le disait très bien Emmanuel, c'est un petit peu un show entre républicains et démocrates. C'est l'occasion pour les républicains de dire aux démocrates, maintenant vous arrêtez de dépenser autant et vous faites des coupes budgétaires. Et c'est l'occasion aussi aux démocrates de dire, bah écoutez,
On y tient
et on financera par une hausse d'impôts sur les classes les plus riches. Donc là, il y a un petit peu le match entre républicains et démocrates qui, tous les deux, veulent se faire peur, mais qui savent tout autant qu'ils trouveront un accord. Ça, il n'y a pas de doute, ils trouveront un accord. Je pense qu'aucun des deux partis ne voudrait être responsable d'un défaut des États-Unis. Ça entamerait la confiance sur le dollar et c'est quand même l'arme la plus forte des États-Unis.
C'est vrai que ce que nous rappelle Guillaume est à avoir en tête quand même. Si on enlève vos certitudes, un défaut sur les États-Unis, c'est Armageddon quand même.
Oui, c'est Armageddon, mais enfin, ça n'a pas de sens en fait. Même lorsque j'entends, c'est très juste de faire référence effectivement aux CDS, mais les CDS sont des contrats de taux, enfin des contrats financiers qui sont émis par des banques essentiellement américaines. Donc est-ce que vous pouvez imaginer que les États-Unis fassent faillite, entre guillemets, fassent défaut et que les banques américaines ne soient pas impactées ? Donc tout cela n'a pas de sens. Très sincèrement, ça me paraît un marronnier, comme on dit dans votre métier, Cédric.
Tout à fait.
Et donc
je me souviens qu'il y a quelques semaines, quand j'ai commencé à voir apparaître ce terme dans quelques études et que je l'ai posé sur le plateau.
Vous avez raison.
Certains de vos petits camarades m'ont un peu rionné en me disant, écoutez Cédric, on a d'autres choses à penser. C'était dans le passé. Et puis en quelques semaines, le sujet est devenu majeur.
Absolument.
Et
d'ailleurs, la dernière fois que je suis venu dans votre studio, j'évoquais ce point-là, qui était effectivement un des facteurs de volatilité des marchés. Mais il faut justement en tirer parti.
Bien sûr.
En fait, je pense que c'était le moment, plutôt la semaine dernière, en début de semaine peut-être, de prendre des positions sur la dette américaine à court terme. Mm-hmm.
L'autre question, mais que vous avez déjà partiellement traité, Emmanuel, c'est celle du crédit. Et on voit la Fed, et on a encore vu les minutes, etc., qui pointent quand même toutes les risques de contraction plus large du crédit, etc. C'est quelque chose aussi que là, il faut surveiller avec attention.
Qu'on
l'a vu monter avec les crises bancaires. On va pas redonner tous les noms des quelques banques qui ont émaillé ces derniers mois.
Ça, je pense que c'est un sujet qui est très important, qu'il faut suivre tout à fait particulièrement, parce que là...
Ça touche tout le monde, les boîtes comme les ménages.
Voir que la plupart des crises boursières, des crises financières, ce sont des crises qui sont en grande partie causées par la Banque Centrale et par la Fed. C'était le cas en 1987, c'était le cas en 2000, c'était le cas en 2002, c'était le cas également en 2008. Donc chaque fois que la Fed intervient trop fort, soit en remontant ses taux d'intérêt, soit en contractant la masse monétaire, à un moment ça impacte l'ensemble des crédits à l'économie, ça se retrouve effectivement dans le taux de croissance de la masse monétaire. monétaire, aussi bien M1 que M2, M3, voire M4, voire les agrégats les plus larges de la masse monétaire en intégrant l'ensemble des titres à court terme, voire les marchés d'actions. Et donc cela crée une contraction des conditions financières. C'est ce qui est recherché par la Fed, me direz-vous, notamment pour lutter contre l'inflation. Sauf que souvent, la Banque centrale va au-delà de ce qui serait nécessaire pour assurer simplement une pause dans le rythme de l'inflation, et que la contraction financière se diffuse dans l'ensemble de la sphère économique. C'est ce qu'on a vu aux États-Unis avec la faillite de différentes banques en Californie, et également sur la côte est. C'est ce qu'on a vu également de ce côté-là de l'Atlantique, de ce côté-ci de l'Atlantique, pardon, avec la faillite du Crédit Suisse. Donc je pense qu'il faut être extrêmement sensible à ce risque. Il me semble que la Fed en a pris la mesure, puisque elle l'a annoncé, on peut parler de pivot, de pause, enfin, vraisemblablement quand même, on va avoir un rythme de resserrement de la masse monétaire et des conditions financières qui tiendra compte effectivement de ces aspects aux États-Unis. Il faut savoir également que l'inflation est en train de baisser, que des voix se sont élevées récemment aux États-Unis, ça a été le cas de Bernanke, mais également d'Olivier Blanchard, pour avoir un objectif d'inflation qui soit supérieur à 2%. Autrement dit, pour réviser l'objectif de 2% que la Fed s'était fixé il y a quelques années, pour peut-être passer à 3%, et pourquoi pas? Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'on ne peut pas avoir de croissance sans inflation. Et donc, les périodes de forte croissance dans le monde développé, en Europe et aux États-Unis, ont également été des périodes d'inflation un peu plus soutenues que dans les périodes de stagnation économique. C'est tout à fait normal. Et on a le même problème en zone euro, avec toutefois là une BCE qui souhaite poursuivre le resserrement monétaire malgré le fléchissement de l'économie, malgré la contraction des conditions financières. Donc là, à nouveau, on retrouve effectivement deux grandes banques centrales qui agissent dans des sens assez contraires et qui correspondent à leur mandat, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que le mandat de la Fed, c'est d'accompagner la croissance et le chômage, et de lutter contre le chômage. Celui de la BCE, c'est essentiellement d'assurer la stabilité du pouvoir d'achat. Et donc, cela fait qu'on a une croissance aussi assez faible en zone euro, et un réglage monétaire certainement beaucoup plus serré que l'économie européenne ne le souhaiterait. C'est d'ailleurs un assez triste anniversaire pour les 25 ans de l'euro.
Comment est-ce que vous regardez, vous, ces questions de crédit? Parce qu'effectivement, ça peut affecter les entreprises, ça peut affecter les ménages, donc la conso, à un moment où on a toutes ces questions d'inflation. Enfin voilà, on a l'impression que c'est un petit peu, peut-être pas un cercle vicieux, mais voilà, une préoccupation qui doit être assez majeure, non?
Oui, c'est assez majeur. Nous, on reste très sélectif chez Carlton sur tout ce qui est obligataire. On favorise en particulier l'investment grade européen, l'investment grade court. On pense qu'il n'y a pas tellement de primes de risque pour aller sur du high yield ou sur des notes plus basses. Donc nous, on reste vraiment sur l'investment grade et sur de la qualité. La hausse des taux fait qu'aujourd'hui, l'obligataire, c'est une classe d'actifs qui a tout son intérêt dans une allocation diversifiée. Donc on reste très prudent là-dessus. Et sur le crédit, voilà, donc on va pas chercher des sociétés trop endettées ou alors qui vont souffrir du ralentissement de la demande mondiale, parce que on le voit aux États-Unis, la consommation commence un petit peu à s'essouffler. En Europe, en zone euro, c'est la même chose. On a une demande qui commence à ralentir avec l'Allemagne qui est en récession technique depuis hier. Donc nous, on fait très attention à tout ce qui est high yield, et sur les actions, à tout ce qui est small cap. Donc on reste sur vraiment ce qui est le plus prudent dans un contexte de ralentissement économique.
Voilà donc pour les grandes questions américaines. Il y a l'autre sujet qui a tenu les marchés pendant longtemps et qui peut aussi expliquer un petit peu le phénomène de pause qu'on observe ces derniers temps. C'est la question de la Chine. On a attendu, espéré, pré-célébré peut-être son redémarrage, etc. Puis là, on voit que ça cale, que c'est peut-être pas aussi vif qu'on ne l'espérait, etc. Quelle est votre lecture sur ce plan-là, sur cette question chinoise ?
Je pense que les marchés sont allés très vite sur la Chine, effectivement.
Trop vite ?
Certainement trop vite. On a nourri beaucoup d'espoir sur la réouverture de la Chine. Et en fait, il y a deux problèmes. D'une part, on sait que le Covid-19, malheureusement, n'a pas disparu en Chine. On parle de plus de 60 millions de cas en Chine. Donc, ça impacte quand même l'ensemble de l'économie.
Une paille, non ?
Une paille, oui. Ça, c'est le premier problème. Donc, ça impacte l'ensemble des valeurs qui sont liées, effectivement, à la croissance domestique de l'économie chinoise, et notamment les valeurs du luxe. Donc, vous avez une forte correction, enfin, une correction assez significative, disons, des valeurs du luxe, ces derniers jours, qui est lié à ce phénomène. Et puis, vous avez d'autre part le fait que la Chine qui s'ouvre aujourd'hui ou qui devrait s'ouvrir n'est pas celle que nous avons connue il y a 5-10 ans, et en tout cas avant le Covid. C'est une Chine qui s'affirme sur l'ensemble des terrains militaires, politiques, industriels. Vous avez vu que la Chine a décidé d'interdire certains programmes informatiques, certaines mémoires rapides, certaines mémoires vives sur son propre territoire. Donc elle est en train de développer ses propres capacités de production, et malheureusement on l'y a un peu aidé en favorisant des transferts de technologies. Donc on a un pays qui s'engage dans une voie qui quand même présente beaucoup d'incertitudes à mon avis pour les investisseurs extérieurs, et donc avec une logique autarcique, une logique de croissance autonome, et des partenariats que vous connaissez qui également peuvent conduire à regarder l'investissement en Chine avec un peu plus de recul. Donc tout ça pèse évidemment sur les valorisations et devrait conduire également les investisseurs à revoir leurs allocations. Ça a été le grand pari des 20 dernières années, la Chine, hein, le plus grand marché du monde, etc., etc. Aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup plus incertain en termes de valorisation, en termes également tout simplement de propriété des titres. Si vous investissez en actions chinoises, est-ce que vous êtes véritablement propriétaire de vos titres dans les mêmes conditions que lorsque vous investissez en actions américaines ou françaises ou japonaises? La question indéniablement se pose. Donc effectivement, une assez grande incertitude pour des raisons fondamentales et qui sont liées également à la trajectoire même de la croissance chinoise. Vous savez, ils ont sur le plan démographique, ils ont été dépassés par l'Inde. Vous avez des enjeux de démographiques, économiques, internes absolument considérables. Et donc beaucoup, beaucoup d'incertitudes quand même sur la Chine.
Alors, Guillaume, la Chine, déception aussi ou
Grosse déception, la Chine. Alors la Chine, pour nous, sur le papier, elle avait tout pour plaire.
Ben oui.
Des valorisations super.
Et on l'a quasiment pricé.
Malheureusement pendant un an, très vite. Ouais. De fin octobre à janvier, on a eu une remontée fulgurante des actions chinoises. Alors des valorisations attractives, une sortie du zéro Covid avec des mouvements qui allaient être importants, des mouvements de personnes dans tout ce qui est loisirs, hospitalité, voyage. 3000 milliards de réserves d'épargne, donc ça c'était aussi magnifique pour le marché chinois. Pour autant, ce qu'on voit, c'est qu'en fait la reprise, elle est beaucoup moins forte qu'attendue. Les valorisations super attractives dont on parlait sur les actifs chinois, en fait, ça attire plus les investisseurs parce qu'il y a trop de tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine. Et je pense que ça, c'est vraiment un point très bloquant. Nous, on a coupé nos positions chinoises en début d'année quand les tensions avec les États-Unis commençaient à être trop fortes. On a coupé de la Chine pour se rediriger vers le Japon qui est beaucoup plus stable et qui aussi a un alignement favorable des planètes en termes économiques. Donc sur la Chine, même si on regarde l'épargne, en fait, l'épargne, elle n'est pas tellement dépensée. C'est une épargne plus de peur qui est conservée. Donc, grosse déception chinoise. Une guerre géopolitique qui est menée contre les États-Unis. Donc forcément, c'est pas des signaux positifs pour des investisseurs internationaux. Donc on comprend les flux de décollecte sur la Chine.
Bon, donc on fait la pause. Il y a quand même des préoccupations, même si le plafond de la dette n'en fait pas partie. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que Guillaume, il nous a dit quelques trucs déjà sur leur allocation chez Carlton, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est le moment de...
Il y a plein de choses à faire.
Ça doit ressembler à quoi le portefeuille type, tiens, de la financière de la Cité?
Le portefeuille type de la financière de la Cité.
Répliquer à un auditeur.
En fait, c'est un portefeuille 60-40. Vous savez, les portefeuilles 60% obligues, 40% actions ont fait la pire performance en 2022 de leur histoire, puisqu'en 2022, c'était vraiment l'année horrible. On a eu à la fois la baisse des marchés d'actions et la remontée des taux d'intérêt. Donc ça a donné beaucoup de valeur en fait à des portefeuilles équilibrés. Donc aujourd'hui, être sur les marchés obligataires, à notre avis, ça a du sens parce que ceux-ci ont retrouvé de la valeur et l'inflation est en train de baisser. Donc on peut s'attendre à une baisse des taux à long terme. Donc en tout cas, on peut retrouver de la valeur. En tout cas, on a retrouvé du portage à défaut d'avoir un gain en capital sur les obligations. Et d'autre part, sur les actions, il y a pas mal de choses à faire. À la fois en Europe et aux États-Unis, on privilégie les grands marchés sur lesquels on a une forte visibilité. L'Europe, essentiellement pour les valeurs exportatrices, on n'en manque pas, et les États-Unis pour les valeurs qui sont les plus sensibles à la croissance domestique, qui offrent le meilleur levier opérationnel. Donc on les trouve essentiellement dans les industries, dans les secteurs traditionnels de l'économie. On est en revanche beaucoup plus réservé sur tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Non pas que ça n'ait pas d'avenir, mais on préfère le jouer à travers de grandes valeurs comme Microsoft plutôt qu'à avoir des petites valeurs. Alors, c'est vrai que je parlais d'Nvidia qui plus tout à fait une petite valeur maintenant, hein, puisqu'il a franchi le cap du milliard de dollars de capitalisation. Néanmoins, ça se paye 180 fois les résultats, 40 fois les ventes. Bon, il faut peut-être un tout petit peu réfléchir. Et puis enfin, Yalor, hein, j'en parle souvent ici, mais je dois reconnaître que la fameuse relique barbare, bah, elle s'est bien comportée depuis que j'en parle, et en tout cas depuis la fin de l'année, puisqu'on est régulièrement au-dessus des 2000 dollars l'once.
Là, on est à 1952.
Et donc, je pense que chaque fois qu'on tape en dessous de 2000 dollars, c'est le moment de revenir. Hein, ouais. Tout simplement parce que l'or est la variable naturelle d'ajustement des équilibres géopolitiques, monétaires, inflation, etc. Donc, c'est pas mal d'en avoir dans le portefeuille. Pour répondre à votre question, c'est, on va dire un tiers d'obligation, un tiers d'obligation d'action américaine, un tiers d'action européenne, et puis comme dans Marius de Pagnol, un quatrième tiers d'or, 10% d'or dans les
portefeuilles. Ne pas oublier un petit peu d'or. Bon, voilà donc, et du coup, chez Carlton, ça ressemble à quoi? Alors, si on fait la synthèse, parce que vous nous avez dit plusieurs, vous avez donné plusieurs pistes. Alors, mais
déjà, globalement, nous, on favorise l'obligataire aujourd'hui.
D'accord.
Donc, 60% d'obligataire, de l'obligataire court terme européen investment grade. Donc, on peut aller soit sur de la senior, soit sur de la subordonnée bancaire qui paie très bien. Et après, sur les actions, en Europe, nous, on ne souhaite pas s'exposer sur le marché global européen, je veux dire. Pas d'indice large, on va sur des valeurs en direct. Et ce qu'on aime beaucoup, c'est les leaders mondiaux. Par exemple, on a remis du LVMH et du Hermès avant-hier et il y a deux jours, après les baisses qui sont pour nous totalement infondées, c'était juste une prise de profit. Mais ça, par exemple, ce type de valeurs, ce sont des leaders mondiaux qui permettent en plus de s'exposer à la Chine sans être exposés directement à la Chine. Donc ça, on aime beaucoup. Et aux États-Unis, alors on a un profil assez blend. On a mis un petit peu de value qui est très en retard et on pense qu'il y a un petit rattrapage à faire. Et en même temps, beaucoup d'actifs de croissance qui vont profiter de la baisse des taux à venir et la thématique de l'intelligence artificielle qui, pour nous, est totalement essentielle. Mmh. Donc, on le fait via des pure players également.
Merci beaucoup à tous les deux. Emmanuel Salle, donc financière de la Cité, Guillaume Gérino, Carlton Sélection, répondait à Regard Croisé ce matin. Très bonne fin de semaine sur les marchés. Le CAC, lui, il perd 0,17%. On va aller voir techniquement quels sont les niveaux à avoir en tête. C'est Stéphane Sauduté qui nous attend. Et puis n'oubliez pas également les éco-patrimoines que vous pouvez trouver en kiosque avec BFM Business en partenaire autour de la nouvelle donne du crédit immobilier. Vous n'avez pas pu manquer toutes les questions qui se pose avec la hausse des taux, et bien vous avez toutes les réponses dans les échos patrimoine.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Il nous reste une demi-heure à passer ensemble et pour entamer cette dernière demi-heure, on rejoint technibourse.com où nous attend Stéphane Sauduteil pour suivre les évolutions graphiques de la séance du jour. Rebonjour Stéphane, pour le moment on a, semble-t-il, opté pour la baisse.
Bonjour à tous. Oui, on revient chercher cette zone de points bas qui était la nôtre cette semaine, autour des 7200 points. Il reste une petite dizaine de points. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un niveau qu'il va falloir éviter de rompre, surtout en clôture semaine. Ce soir à 17h35, il faudra quand même, à mon sens, être au-dessus des 7200 si on veut garder l'espoir d'une reprise. Alors cette reprise va être confrontée maintenant à un grand nombre de résistances. La première aujourd'hui, c'est 7240 points, c'est un peu la zone de démarcation entre journée baissière et journée plutôt haussière, c'est-à-dire au-dessus de 7240, ça va un peu mieux et on peut viser 7280 points. Mais pour vraiment se sortir un petit peu de l'ornière dans laquelle nous a précipité les valeurs du luxe cette semaine, il faudrait repasser au-dessus des 7350 points. Donc bon, c'est pas très loin, mais pour le moment, ça semble quand même assez éloigné. En dessous des 7200 points, si on clôturait cette semaine sous les 7200 points, ça renverrait quand même un mauvais signal et je crains qu'on ait peut-être des dégagements un peu plus marqués en direction des 7000 points, voire 6850. Alors 6850, ça semble très bas, mais sait-on jamais, parce que on avait eu un CAC 40 très très résilient depuis de nombreuses semaines, et casser ce niveau technique des 7200 points me semblerait être une porte ouverte quand même à une correction technique de plus grande envergure. À noter aussi cette semaine le retour de l'or sous les 2000 $. C'est un petit peu normal avec la hausse des taux d'intérêt à 2 ans américains. On était à 4,25 vendredi dernier, on est à 4,50 cette semaine. Donc ça a réenchéri le dollar et fait baisser un petit peu l'euro-dollar. Donc les actifs en or ont subi un petit peu les conséquences de tout ça. Mais je ne pense pas que ce soit très très méchant ou plus ou moins temporaire. Hein. Je pense qu'on reviendra certainement chercher les 2060, peut-être même les 2100 $ dans les semaines qui viennent. Et puis aussi le Nikkei, en fait, qui était dans une zone léthargique depuis janvier 2021, ça fait plus de 2 ans et demi, entre 25 000 et 30 000 $. Le Nikkei est passé au-dessus des 30 000 $ ces dernières semaines, et donc là sort un peu de cette phase de léthargie et offre peut-être un potentiel de hausse vers les 35 000 $ à échéance, bien sûr, moyen début long terme. Donc ça aussi c'était assez nouveau pour le signaler. Et puis donc on a cet euro-dollar qui se rapproche d'une zone de support très très importante autour des 1,0680, on est à 1,0730-35 je crois à l'heure actuelle, donc on a encore un petit peu de marge. Il faudrait éviter de passer sous les 1,0680 pour là aussi ne pas trop démoraliser les cambistes, puisque en dessous on aurait le 1,0520 qui serait le dernier support avant un renversement vraiment de la tendance haussière à moyen début long terme de l'euro-dollar maintenant.
Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Sauduteil, Technibourse, qui nous accompagne chaque vendredi pour lire graphiquement la séance du jour. Merci Stéphane. Et ce CAC 40 donc qui perd 0,22% à 7213 points, l'euro-dollar est à 1,0737.
BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fond.
L'heure de filer chez Morningstar, où l'on retrouve en duplex Clémence Dachicourt. Bonjour Clémence.
Bonjour.
Merci d'être au rendez-vous. Pourquoi s'intéresser aux actions japonaises aujourd'hui? C'est la question sur laquelle vous vous penchez.
Oui, alors le Japon est le sujet de beaucoup d'attention ces derniers jours. Alors pas uniquement parce qu'il y a eu le G7 qui s'est tenu à Hiroshima, mais surtout parce que les indices japonais ont connu un important rallye boursier. Les actions japonaises sont au plus haut depuis 3 ans. Elles sont en hausse de 59% contre seulement 46% pour les actions internationales. Alors certes, la dépréciation du yen contre l'euro sur la période rend cette performance un peu moins attractive pour un investisseur européen, mais cette nouvelle dynamique mérite tout de même qu'on s'y intéresse.
Alors justement, quels ont été les moteurs derrière ce regain de performance du marché que vous mettez en avant ?
Alors vous le savez, le Japon a été boudé par les investisseurs puisque le pays a connu une longue période de stagflation après l'éclatement de la bulle immobilière des années 90. Mais souvenez-vous, à partir de 2012, Shinzo Abe a mis en place une série de mesures pour permettre au pays de retrouver une dynamique économique. Les deux premières flèches des Abenomics ont dynamisé la croissance du pays à travers une plus grande flexibilité budgétaire et un assouplissement monétaire qui reste en place aujourd'hui. Et ça contraste avec les politiques monétaires restrictives destinées à freiner la croissance et l'inflation en Europe et aux États-Unis. Les réformes structurelles portées par la troisième flèche pour améliorer la gouvernance des entreprises et augmenter la création de valeur pour les actionnaires commencent enfin à porter leurs fruits. En effet, une meilleure allocation du capital et une hausse des investissements contribuent à une nette amélioration des marges et des retours sur investissement des entreprises. Et on l'a vu lors du G7, le Japon est également bien placé pour bénéficier de nouveaux investissements d'entreprises étrangères, notamment sur le secteur de la tech et des semi-conducteurs, en réaction aux risques géopolitiques et sanctions appliquées à la Chine. Et dernière cerise sur le gâteau, les politiques de distribution de dividendes et de rachat d'actions sont aussi bien plus généreuses au Japon. Le rendement du dividende offert par les sociétés japonaises est désormais en effet supérieur à celui des actions américaines. Donc en fait, si on résume, le Japon est à contre-courant par rapport au cycle de décélération observé en Europe et aux États-Unis. Et ils profitent de dynamiques porteuses pour la croissance des entreprises, leur rentabilité et leur niveau de valorisation.
Voilà pour l'exposé des motifs. Après, on plonge dans votre base et vous nous dénichez, j'imagine, quelques fonds afin de nous exposer à ce marché.
Oui, tout à fait. Alors, la première idée de fonds, c'est Invesco Japanese Equity Advantage Fund, qui est un fonds qui est centré sur la qualité. Le gérant sélectionne des valeurs dotées d'un avantage compétitif structurel, qui peut être lié par exemple à la valeur de la marque, la fidélité de leurs clients ou bien à leur positionnement technologique. Et cela leur confère un aspect défensif de par la récurrence de leurs flux de trésorerie. Alors le fonds est noté bronze, il est généré d'excellentes performances ces derniers temps. Deuxième option, T. Rowe Price Japanese Equity, qui lui suit un style croissance. Le gérant se concentre sur des valeurs dégageant des profits en forte hausse, où les entreprises traversant des changements stratégiques et donc susceptibles de surprendre par l'amélioration de leurs résultats. Et la performance du fonds était un petit peu décevante, puisqu'elle a subi en fait le renversement de son biais stylistique en 2020, mais ça reste quand même une bonne option sur le long terme. Et enfin, le tracker iShares Core MSCI Japan est aussi une excellente option pour s'exposer au marché japonais à moindre frais. Les frais sur le tracker ne sont que de 0,15%. Il suit la performance de l'indice MSCI d'assez près, qui est un indice qui est très diversifié, qui comprend environ 240 sociétés japonaises, toutes tailles confondues. Et le tracker surperforme l'ensemble des fonds de sa catégorie sur 3 ans, 5 ans et 10 ans. Et enfin, pour terminer, pour ceux qui souhaitent éviter de s'exposer au risque de change, il est aussi possible d'acheter des parts couvrant le risque de fluctuation de l'euro contre le yen pour tous ces fonds.
Merci beaucoup Clémence. Clémence Dachicourt depuis Morningstar pour l'intérêt apporté aux actions japonaises. À très bientôt. Le marché parisien, lui, est à 7213 points et il perd 0,22%.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Et pour répondre à vos questions, comme promis, Romain Burnand et François Monnier sont de retour en plateau. Prêts, messieurs ?
Bien sûr,
Cédric. Romain pour Moneta Asset Management et François Monnier pour la rédaction d'Investir. Commençons avec Jocelyne, François, qui vous écrit « AXA est-elle une bonne valeur de rendement ?» Et en fonction de la réponse, est-ce que vous en connaissez d'autres ?
Oui, je pense que c'est une bonne valeur de rendement. En fait, on est rarement déçus. Hein. L'avantage d'un assureur comme AXA par rapport à une banque, c'est que on a pu voir au cours des années précédentes, c'est qu'il y a une certaine régularité dans les profits. AXA ne perd jamais d'argent, alors qu'une banque, on peut avoir des années compliquées. Donc, il y a une sorte une meilleure visibilité, une volatilité qui est moindre. C'est lié au fait que voilà, ils sont probablement plus prudents, le modèle économique est plus prudent, plus résilient, même si on voit quand même que ça évolue de façon un petit peu différente. Hein. On voit par exemple qu'on a l'assurance dommage et l'assurance entreprise qui sont en croissance. Dans l'assurance dommage, on a vu au premier trimestre des hausses de prix pour les particuliers de près de 5%. Même chose pour l'assurance entreprise où là aussi on passe des belles hausses de prix. On voit que dans le domaine de la réassurance, il y a une vraie réorganisation. Donc là, on a une activité qui est en train de se replier, mais c'est pour, là aussi, éviter des à-coups dans les années à venir. On voit que AXA essaie de se protéger contre le dérèglement climatique. Et donc, ils essaient de réduire leur exposition en cas de catastrophe naturelle. Ça pourrait déstabiliser éventuellement leur bilan. Et donc, dans ce domaine-là, ils essaient de prendre des garanties en disant, nous, on s'engage jusqu'à certains montants, mais avec certaines conditions. Donc, les alinéas dans les contrats sont de plus en plus longs. Et puis, on voit que dans l'assurance vie, épargne, santé, là, il y a une réorganisation où, avant, historiquement, il y avait une croissance qui était forte grâce aux contrats en euros. Et ça, c'est terminé. Donc l'activité est un peu calme, voire très calme. Mais la part des UC permet de dégager des meilleures marges. Donc, dans un contrat en assurance vie, vous avez deux possibilités. Ou c'est des euros, donc c'est des obligations et vous avez un coupon. Ou vous pouvez mettre des fonds, comme des fonds Moneta, par exemple, de Romain. Et là, vous espérez avoir des gains plus importants. Et les marges aussi sont plus importantes chez les assureurs. Et donc là, on aura des rentabilités sympathique. Donc au global, vous avez une activité qui est en croissance, qui va améliorer encore ses marges. AXA vise une amélioration de ses profits de plus de 20% au cours de cette année. Le dividende, il est extrêmement solide. Hein. Vous allez avoir un dividende de plus de 6%. Mmh. Donc un PER faible, hein, ça se paye 8 fois. Quand on sait que le CAC 40, on est autour de 14 fois. Donc, il y a un côté un peu value, il y a du rendement. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous plaît bien. Donc, nous, on a la chasse sur AXA.
Bon, donc, AXA, bonne valeur de rendement. Et,
oui.
Et...
Après, il y en a encore d'autres
qui sont
fort sympathiques. Hein. On parle de Stellantis. Stellantis, c'est un rendement de 9%, un peu R de 3. Donc, c'est séduisant. ALD, qui est une filiale de la Société Générale qui s'occupe de la
location de voitures,
de flotte. Vous avez un rendement de 9%, un, un, Hein, donc ça aussi, c'est le même rendement que je veux dire que Stellantis. Donc dans l'automobile, on arrive à avoir du 9%. Vous avez du Total qui en ce moment, je crois qu'il y a une assemblée
sous
générale
les feux de la rampe.
très très agité, mais qui distribue un rendement de 5%. Donc là, la cote est très très riche en France. J'entendais tout à l'heure, on parlait des acteurs cotés au Japon. Il n'y a pas qu'au Japon qu'on distribue du dividende. Il y en a aussi en Europe et en France. Et on a aussi, bien sûr, on peut parler de Veolia Environnement, 4% de rendement. Et puis enfin, on peut regarder Imerys, un acteur dans les matières premières et qui est censé découvrir du lithium prochainement.
Ouais, en France.
Ça peut susciter de l'intérêt et qui propose un rendement de 5%. Donc, des valeurs de rendement, il y en a beaucoup. Il y en a aussi dans la banque. Hein. BNP Paribas propose un rendement de plus de 6%. Donc, il y a du choix. Et AXA est une de ces bonnes valeurs de rendement.
Le rendement, c'est quelque chose que vous regardez chez Moneta
Alors, on le regarde, bien sûr, parce que c'est un signe de faible valorisation, si le rendement est bien assis. Et on a aussi du rendement sur des valeurs qui sont très défensives. Nous, on aime bien la Eiffage, qui distribue qu'une petite partie de son résultat, mais son PE étant faible à 10. Eiffage, une grosse partie de résultat est assise sur les autoroutes, hein, qui sont indexées en large partie sur l'inflation. On a un rendement, là, qui est de 3,7%. Pour ça environ, donc mieux que les emprunts d'État et en plus indexés. Et en plus, ce n'est qu'une partie de leur résultat. Le reste est mis en réserve pour financer la croissance. Vous avez aussi moins risqué, très peu risqué aussi, alors par rapport aux valeurs financières hein, dont François a déjà parlé, des gens comme Sanofi. Hein, c'est plutôt 3,5-4% de croissance. Voilà, ce n'est pas forcément une vedette, mais c'est une société aussi qui n'est pas endettée. Bon. Voilà. Donc c'est vrai que on a toute une pan du marché qui est faiblement valorisée. Ça se traduit par des flux et des dividendes relativement élevés.
Voilà, Jocelyne, quelques idées là-dessus. Jean-Noël vous interroge, Romain. Faut-il rester investi sur Technip Energies qui a gagné un gros contrat dans le GNL récemment au Qatar? Mais Jean-Noël pointe que le cours réagit peu.
Alors, c'est vrai que le cours a peu réagi. Mais pourtant, Technip Energies a beaucoup d'atouts. Moi, j'en citerai trois. C'est le fait d'avoir un carnet de commandes qui soit un carnet de commandes qui est long. Ils ont plus de 3 ans de carnet de commandes. Dans un environnement économique toujours un peu incertain, ben c'est bien d'avoir des commandes. La deuxième raison, c'est qu'ils sont positionnés sur des secteurs qui sont des secteurs plutôt en croissance, à la fois sur le gaz, le GNL, mais aussi sur des projets moins liés aux hydrocarbures. Ils sont positionnés sur le biofuel. Ils sont positionnés aussi sur l'hydrogène. Ils sont positionnés sur la capture de carbone. Donc, ce sont des secteurs qui sont en croissance chez eux. Ils ont engrangé l'année dernière plus d'un milliard d'euros de contrats sur ces nouvelles applications. Et le troisième point, ce qui est un point assez rare, c'est une des valeurs qui bénéficient de la hausse des taux. Comme leurs clients, ce sont très gros contrats qui sont exécutés sur long terme, leurs clients leur payent en avance. Ils ont une trésorerie donc brute de 3 milliards d'euros qui rapportait rien jusqu'à récemment et qui maintenant rapporte 3%, ce qui fait 100 millions d'euros, ce qui par rapport à leurs résultats est relativement significatif. Bon. Alors la question, c'est pourquoi le titre n'a pas
réagi? Ah oui, c'est ça, parce que ça fait quand même des bonnes nouvelles.
C'était une bonne nouvelle, c'est un contrat très important, c'est 6 milliards de dollars, c'est quasiment un an de chiffre d'affaires. C'est un contrat qui était attendu, donc c'était une...
Donc c'était déjà pricé,
totale,
comme on dit.
Pas une totale surprise, mais c'était quand même bien de l'avoir confirmé. Et surtout, ce qui serait intéressant pour Technip Energies, c'est d'avoir un contrat cette fois... plus au Qatar, qui est un endroit où ils sont très présents, mais éventuellement aux États-Unis. Et là, ce serait un catalyste qui dirait que vraiment la technologie GNL de Technip Energies est reconnue aussi aux États-Unis, qui est un marché sur lequel ils n'étaient pas présents. Vous vous rappelez peut-être qu'ils étaient assez présents en Russie, mais c'est un marché qui est maintenant fermé.
De fait.
Et on a pour ça une valeur qui a un price earning de 10 fois les résultats. 3 ans de carnet de commandes, une bonne visibilité. RIS, c'est l'exécution des contrats. Jusqu'à présent, Technip Energies a toujours été un très bon élève. 10 fois les résultats, une société qui a une bonne visibilité et qui a des options de croissance de long terme, c'est vraiment pas cher. C'est un peu à l'exemple du marché actuel. Vous avez des sociétés qui ne font pas rêver, même si elles sont très sérieuses. Vous avez des sociétés qui font rêver. Vous faites rêver, vous faites aller 3 fois plus cher que les sociétés où vous ne rêvez pas. Mais il vous arrive de rêver de sociétés dans lesquelles vous ne rêviez pas et de cauchemarder sur des sociétés dans lesquelles vous aviez rêvé.
Il n'y a pas d'erreur dans la démonstration. C'est ça qui est quand même très talentueux. Ça vous intéresse ou pas, Technip?
Oui, nous on a la chance, une grande conviction chez Investir. Après, c'est vrai qu'il faut voir aussi le parcours. Hein. On est sur un titre qui gagne plus de 30% depuis le début de l'année. Quand le CAC est à plus 12 dans un secteur qui quand même n'est pas non plus très très recherché en ce moment, paradoxalement, quand on voit le champion du secteur, parce que dès qu'on parle parapétrole, on pense à Schlumberger. Hein. Alors, c'est côté, bien sûr, aux États-Unis, mais c'est initialement une société française qui est à près de 100 ans, eh bien, Schlumberger perd 10%, près de 15% depuis le début de l'année. Donc, oui. Donc on voit que le secteur, il a quand même du mal à être recherché par les investisseurs. Mais je pense que il faut être contrariant parce que on le sait, hein, les compagnies pétrolières ont gagné énormément d'argent l'an dernier. Une partie va être réinvestie inévitablement. Alors certes, bien sûr, ils expliquent qu'ils vont faire des relais de croissance, mais le cœur d'activité qui est lié au pétrole et au gaz, il est toujours présent. Alors bien sûr, on va essayer de faire maintenant de l'énergie décarbonée. Donc c'est des projets aussi que propose Schlumberger. Mais voilà, la demande, elle est là. Mmh. Les carnets de commandes, ils vont pleuvoir. Sur Technip Energy, bien sûr, ce qui fait rêver, là, c'est pour reprendre la métaphore de Romain, c'est un contrat aux États-Unis parce que voilà, maintenant, Technip Energy, l'essentiel de l'activité est fait avec le Qatar. S'ils pouvaient avoir un autre
étendre
prisme
leur...
et puis montrer que les Américains sont séduits par une technologie française, là, ce serait le Graal. Et là, je pense qu'on serait plus sur des PE de 10, mais bien au-delà.
Voilà donc quelques éléments, Jean-Noël, autour de ce titre Technip Energy. Donc, question de Jean-Pierre, doit-il rester actionnaire d'AstraZeneca ?
Ben je pense que oui, c'est un champion. Alors c'est un groupe, c'est un laboratoire, un concurrent, on va dire, de Sanofi. C'est anglo-suédois, c'est coté à Londres. Il nous a agréablement surpris lors de la publication de ses comptes du premier trimestre, parce que tout le monde s'attendait à un recul de l'activité, parce qu'AstraZeneca, contrairement à Sanofi, a profité de l'effet Covid avec ses vaccins. Et au premier trimestre, il leur manquait à peu près 1,5 milliard de revenus. Et finalement, ils ont réussi à afficher une activité stable, parce que les autres activités sont en très forte croissance, en croissance à deux chiffres. Ils ont une division oncologie qui fait à peu près un tiers de l'activité, qui a progressé de plus de 20%. Ils ont des anticancéreux pour le poumon et le foie qui sont aussi en très très forte croissance. Donc on a une activité ils arrivent à croître régulièrement. Et en fait, ils ont toute une palette de produits et de molécules qui permettent de dire l'avenir est assuré, contrairement à un Sanofi dont tout repose sur le Dupixent. Mmh. Mais là aussi, c'est un peu comme pour Technip Energy, on aime toujours Sanofi parce qu'on rêve que un jour ils aient un autre produit que le Dupixent. Mais en tout cas, chez AstraZeneca, là ils ont la capacité de mettre 15 nouveaux médicaments d'ici 2030 en commercialisation. Donc on voit que le pipeline, il est plein, il va se déverser et qu'on est vers une croissance qui va être forte. Donc cette année, alors qu'il n'y a plus l'effet Covid, la société s'est engagée sur une croissance de 3 à 5%, et avec une amélioration bien sûr de la rentabilité, puisque le bénéfice net par action est attendu en hausse de 8 à 12%. Donc on est sur une activité extrêmement rentable. Et donc aujourd'hui, si on achète du AstraZeneca, la thématique c'est de se dire on achète une société qui est capable de croître deux fois plus vite que le secteur, avec une croissance moyenne de 12%. Donc oui, on a envie de rester, je pense, à l'achat d'AstraZeneca, et je pense que c'est une bonne opportunité. Après, le PER et la ratio cours sur bénéfice est plus élevé qu'un acteur, j'ai envie de dire, qui n'a pas de croissance ou pas vraiment de relais de croissance, puisqu'on a un PER de 19 fois, mais c'est le prix de la qualité.
C'est votre genre de beauté
Pour être franc, c'est une valeur, alors beaucoup de gens partagent l'avis de François sur la valeur. C'est une valeur qui est assez consensuelle, assez détenue. Et comme François l'a dit, son pricing est proche de 20.
Et vous n'aimez pas trop les valeurs trop chères.
Alors, on n'aime pas trop les valeurs trop chères. AstraZeneca n'a pas toujours été une vedette. Hein. C'était une valeur pas chère du tout, peu de temps avant le Covid et le vaccin. Elle s'est réveillée. Ouais. Donc on préfère des valeurs avec une potentielle de redécouverte, comme Novartis et éventuellement Sanofi.
Question de Raphaël, la Société Générale a-t-elle un potentiel de valorisation ?
Alors, potentiel de valorisation, ça c'est sûr, parce qu'il y a une société qui se paye un tiers de ses fonds propres hors sur valeur, les vrais fonds propres qui représentent environ un peu plus de 60 € par action. On a un price earning de 4 fois 2024, donc on a une société qui est en ordre correct de marche, après 14 ans de direction générale par Frédéric Oudéa. On a une société qui est en transition aujourd'hui, transition managériale. Slavomir Groupa vient d'être nommé directeur général. Il ne s'est pas encore précisément exprimé sur sa stratégie, même si sa stratégie, les axes de sa stratégie, effectivement, de renforcer la société générale, on va voir sur quels axes. Et aussi transition en termes de résultats, puisque les résultats de 2022 étaient des résultats records pour la banque. Hein. On a une succession de trimestres records. Ceci dit, 2023 s'annonce moins favorable. En partie parce que la base de comparaison est très élevée sur certains métiers. Hein, les marchés ont très bien fonctionné à la Société Générale l'an passé. C'est moins sûr cette année, bien que le premier trimestre soit très encourageant de ce côté-là. Sur des secteurs comme la location de véhicules longue durée, ALD, hein, donc qui rapportent 9%, comme l'a mentionné François, dont les résultats ont été records, ils pourraient être en légère baisse avec la baisse de valorisation des véhicules d'occasion. Voilà, il y avait des facteurs qui étaient très positifs en 2022, qui ne vont pas forcément se retrouver en 2023. Et 2023 est une année de transition aussi au niveau des fusions de réseaux. Les réseaux, la Société Générale a fusionné avec le Crédit du Nord, ça entraîne des frais de restructuration, ça entraîne éventuellement quelques frais. Les synergies viendront plus tard. Pareil sur la fusion entre ALD et LeasePlan, qui est une grosse opération industrielle qui crée un leader mondial sur un secteur qui est un secteur bien en croissance, mais un peu cyclique. La location de véhicules longue durée. Et donc là, on a aussi des frais de restructuration. On aura les synergies plus tard. Et donc, il faut que le regard se tourne vers 2024, vers la nouvelle stratégie qui sera apportée par le nouveau directeur général. Et on pense qu'il y aura des changements parce que la personnalité du nouveau directeur général est une personnalité très affirmée. Il a fait une longue carrière dans les marchés, notamment. Il est très aux longues périodes aussi aux États-Unis. Il arrivera certainement avec des idées nouvelles. En 2024, on aura l'avantage d'avoir les synergies qui auront pesé sur 2023 et aussi la fin d'une une contribution des banques au fonds de résolution. Le fonds de résolution, c'est un fonds de sauvetage des banques. Sauf que les banques françaises contribuent plus que la moyenne des banques européennes et que la Société Générale, pour des raisons de calcul, contribue plus que la moyenne des banques françaises elles-mêmes. Donc l'arrêt de cette contribution s'est fait 800 millions d'euros dans le temps en plus. Donc on peut penser que le résultat 2024 est bien assis. Et c'est dans cette perspective-là que je dis oui, le potentiel de valorisation a une chance de se concrétiser. Bon.
Allez, on essaie de répondre. Il nous reste une minute pour répondre à Lucien. Croyez-vous encore en Ipsos, qui a mauvaise mine depuis le début de l'année, François?
Oui, j'y crois encore. Alors, c'est vrai que c'est mauvaise mine, puisque c'est un titre qui perd près de 20% depuis le début de l'année. Mais justement, c'est peut-être dans ce moment-là qu'il faut regarder. Donc, Ipsos, tout le monde connaît, hein, c'est un spécialiste des enquêtes et des sondages, qui a réalisé un mauvais premier trimestre parce que c'était de ses valeurs qui profitaient de l'effet Covid. Et donc, on a eu une petite décroissance au premier trimestre de l'ordre de près de 3%. Mais la société a réaffirmé que, globalement, sur l'ensemble de l'exercice, il serait capable d'afficher une croissance de 5% avec une marge de 13%. Mmh. Donc, la société reste en croissance, reste rentable. On a quand même une bonne visibilité parce qu'on a un carnet de commandes qui assure plus de la moitié du chiffre d'affaires. Donc il n'y a pas de raison d'être très inquiet. Et je pense que c'est intéressant de profiter de ce trou d'air de 20% pour revenir à l'achat sur ce titre qui se paye 9 fois. Donc c'est un titre value qui peut plaire à Romain.
Ipsos, ausculté en moins d'une minute par François Monnier, quel talent. Merci messieurs d'avoir répondu aux questions des auditeurs ce matin. François Monnier donc pour la rédaction d'Investir et Romain Burnand pour Moneta Asset Management. Très bonne fin de semaine à tous les deux. Dans un instant, 90 minutes business et donc Sandra Gandoin qui nous rejoint. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Votre sommaire du jour.
On va parler de l'AG de Total qui a été très mouvementé ce matin. On va écouter Patrick Pouyanné, Agnès Pannier-Runacher. Également, on parlera également de Casino qui officialise son entrée dans une procédure de conciliation et qui va aussi céder des supermarchés. Bref, beaucoup, beaucoup d'actu. Et on parlera aussi de solaire avec Sunology. Ce sera notre invité dans 10 minutes, Cédric.
À suivre. Livre donc dans un instant 90 minutes business. Le marché parisien, lui, est en repli de 0,24%, 7212 points pour le CAC. Et nous, on se retrouve lundi matin. Très bon week-end.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.